Quand on demandait est-ce que vous avez peur des changements environnementaux, 3%. C'est lamentable, alors que c'est le grand défi de l'humanité au 21e siècle.
CO2, mon amour.
Si tout continue comme aujourd'hui, ce n'est pas une prospective théorique. 30% de toutes les espèces auront disparu d'ici 2050. Alors on parle du problème des réfugiés, mais 250 millions de réfugiés climatiques.
Denis Chessou.
Comme disait Winston Churchill, le drame, c'est qu'un homme politique a les yeux fixés sur les prochaines élections. Un vrai homme d'État doit penser aux prochaines générations. Et ça, malheureusement, c'est plus difficile pour nos hommes politiques.
Mathieu Ricard, donc invité de cette émission dans CO2 Mon Amour. Bonjour à tous, heureux de vous accueillir dans ce magazine de nature et d'environnement. Parce qu'on n'attend pas vraiment le changement, mais que nous sommes nous-mêmes le changement. Et avec Alexandre Chenet à la technique et Philippe Duclos, assisté de Claire Destacan. Je n'oublie pas Albert Houck cette semaine. Et c'est Xavier Pessugia qui réalise l'émission. Non, alors, s'il vous plaît, non, là, vous me le signez, cet accord-là, plus de 190 pays, hein, vous irez dormir, vous irez visiter Paris après, bon, je vous comprends, hein, le Bourget, l'aéroport, tout ça, pour faire la fête le soir, c'est pas terrible. Bon, mais alors, là, il faut que vous me sortiez quand même 20 pages. Là, vous en avez fait 48, mais là, c'est 20 pages la semaine prochaine, parce que les gens ne lisent plus, la mode est au texte court, et puis on explose les 3 degrés, les enfants, là. Oui, pour les pays les plus vulnérables, c'est barbecue et inondation tous les jours, donc migration. Si vous pouviez mettre aussi un peu de contraintes. Tenez, on va prendre l'exemple de l'OMC. Ils sont formidables, ces gens-là, quoi. Il y a de l'entrave. Dès que vous avez une entrave à la libre concurrence en empêchant de bousiller la planète, hop, il y a des pénalités. Mais voilà, c'est ça qu'il faut faire. Alors, Mathieu Orphelin de la Fondation Nicolas Hulot, bonjour à vous. Vous campez sur place dans le joli port du Bourget. Donc, où en est-on, s'il vous plaît?
Bonjour à vous. Très simplement, on travaille depuis une semaine sur un projet d'accord. Les négociateurs sont maintenant sur un texte plus court, avec moins d'options, moins de complexité, et on arrive à un texte où les options sont en nombre réduit, où bien sûr on a gardé pour les ministres la semaine prochaine les discussions sur les points les plus sensibles, notamment évidemment sur les financements, mais aussi sur la différenciation des efforts entre les pays développés et les autres. Mmh. Et effectivement, mais on arrive enfin à un texte plus resserré, plus concis, plus clair, donc la première semaine a été productive.
Bon, on fait encore un effort parce qu'on a plus de 750 phrases entre crochets, comme on dit, et puis regardez la douceur. Ah bah bien sûr, je parle pas de celle des hommes, mais des températures de novembre. Quasiment plus 3 degrés sur les maximales habituelles à Paris. Pratiquement plus 5 degrés sur les minimales à Strasbourg. Et à Bourges. À Bourges, c'est encore mieux puisque l'on joue sur les deux tableaux. Plus 5 degrés d'écart sur les maximales, hein, et jusqu'à plus 8 degrés sur les minimales. Bon, il est vrai qu'à Bourges, c'est perpétuellement le printemps. Non, c'est pour mon réalisateur, j'ai pas la refaire, il n'a pas compris. Bon, c'est pas grave. Bref, 2015 est bien parti pour monter sur la première marche du podium des années les plus chaudes que les archives de la météo aient connues. Et en pleine COP, faut dire que ça a quand même un certain sens du timing, hein. Honnêtement, ça aurait été d'une drôle d'allure que de déplorer la poussée de fièvre climatique avec de la neige dans les rues de Paris. Et là, on aurait vu des conférenciers, on voit les conférenciers aujourd'hui en bras de chemise, la climat donf, tout de suite, ça fait prendre la mesure du problème. Et puis, c'est évident que l'on tende le micro à Claude Allègre, hein, c'est toujours ça de prix. Alors, les pays qui fâchent, maintenant parlons-en avec vous Mathieu Orphelin, donc les pays arabes producteurs de pétrole, on freine les cas de fer ?
Oui, sur cette première semaine, si j'utilise un langage un peu diplomatique, ça n'a pas été les pays les plus ambitieux, non ?
C'est ça, oui.
Effectivement, c'est clair que certains d'entre eux font un peu de l'obstruction systématique, voilà, donc ils préfèrent un accord pas trop ambitieux, mais vous savez, une chose par exemple, les pays producteurs de pétrole bloquent sur un truc qui paraît tout bête, ils ne veulent pas que le mot énergie renouvelable soit dans le texte de l'accord de Paris, et donc pour l'instant, ce mot n'y est pas. C'est quand même incroyable, alors que le monde bascule vers les énergies renouvelables, alors que plus de 160 pays ont pris des engagements d'objectifs de déploiement des énergies renouvelables, aujourd'hui, dans le texte de l'accord de Paris, ce mot n'existe pas. Il a été remplacé par des mots moins gênants, décarbonisation, par exemple.
C'est ça. Non, mais ça veut donc dire que, en fait, ce sens de l'histoire dans lequel on est parti avec les énergies renouvelables fait donc peur. C'est donc bien cette réalité-là qui est derrière. C'est que d'un côté, on a un monde des énergies renouvelables qui se trouve face au monde des 500 à 1 000 milliards de dollars de subventions aux énergies fossiles.
les pays basculent plus ou moins vite. Effectivement, il y a des pays qui basculent excessivement vite. Je pense à l'Éthiopie, je pense à tout un tas de pays. Et puis, évidemment, ceux qui basculent le moins vite, même s'ils vont être obligés de basculer, c'est ceux dont le PIB dépend le plus directement des énergies fossiles. Donc, effectivement, ils ont plus de mal à basculer d'autres. Mais là, aujourd'hui, à Paris, les pays riches en énergie solaire ont lancé l'Alliance des pays riches en énergie solaire, copilotée par l'Inde. C'est génial, ça montre ce basculement. Et effectivement, on passe des énergies fossiles aux énergies renouvelables. C'est là que demain se fera la prospérité. Et donc, c'est ce basculement qui est assez génial à vivre aussi et qui est évidemment plus difficile pour les pays producteurs de pétrole. Mais souvent, d'ailleurs, ils ont beaucoup de soleil, donc ils pourraient développer l'électricité photovoltaïque sans problème.
Alors, de réelles paroles volontaristes des chefs d'État qui sont repartis fruiter d'autres chats et donc place nette a été faite aux négociateurs. En gros, on va pouvoir continuer de regarder ailleurs le temps que la maison finisse tranquillement de brûler. Mais non, pas du tout. D'abord, c'est vrai que ça bouge. Et puis, tout le monde ne reste pas inactif. D'aucuns essaient de vendre leur voiture électrique, leur centrale nucléaire, histoire de ne pas être venus pour rien. D'autres encore, donc parmi les sponsors de la COP, vous avez la BNP, vous avez Carrefour, vous avez Renault. Qui annonce cette semaine son retour à la Formule 1, hein. Eux aussi ont quand même le sens du tempo. Je trouve ça pas mal. Alors je vous rassure, ce sera pas du diesel. Ah bah non, on est écolo quand même. Vous avez l'Association française des banques, la Fédération française bancaire, Jean-Claude Decaux, Google, Publicis, Nexter, ouais, fabricant de Charles Leclerc, qui espère, on l'espère, turbineront donc très vite aux agrocarburants, parce que faire la guerre en vert, c'est tout de suite mieux. Et qu'est-ce que l'on peut se dire? Vadeco Satanas, Saint Greenwashing, priez pour nous. Et alors, donc, Mathieu Orphelin, les forêts, la biomasse et les océans, qui sont quand même nos capteurs de carbone et fabricants d'oxygène, ils sont pas un peu absents des négociations?
Alors, absents, pas tout à fait absents, mais effectivement, sans doute pas assez présents, parce qu'on voit que, évidemment, ces grands équilibres sont très importants. Et puis, par exemple, la lutte contre la désertification et la reforestation sont parmi les mesures qui ont le plus de potentiel de gain sur le bilan des émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est très important. Il y a des pays qui ont pris des engagements forts en matière de reforestation. Il faut accélérer le soutien à la lutte contre la désertification. Il y a eu des annonces en ce sens de François Hollande au cours de cette première semaine, donc du soutien notamment pour les pays africains qui engageraient des politiques importante sur la lutte contre la désertification. Donc, il y a des initiatives comme ça. Il y a aussi, effectivement, sur les océans, c'est la première COP où on en parle vraiment, même si on pourrait penser que sur ce sujet de l'océan et du rôle de l'océan dans le cycle du carbone, on pourrait aller encore, évidemment, plus loin dans les engagements qu'on prend, dans la préservation de tout ça. Mais voilà, c'est des sujets qui sont peut-être un peu moins habituels pour que les sujets énergétiques, mais il faut qu'on arrive à prendre la globalité des sujets. Donc oui, la forêt, oui, l'océan, oui, la lutte contre la désertification des sols doivent prendre une place de plus en plus importante dans les prochains mois, dans les prochaines années.
Alors ce mot COP, en fait, il sonne plutôt bien. C'est un peu comme coopérative, mettre les choses en commun, surtout quand il s'agit de la Terre, donc de notre avenir de joyeux mammifères prédateurs mais conscients de l'être. Donc c'est pas dénué de bon sens. Bien, il n'y a pas deux os, mais quand même. Alors COP, ça fait aussi penser au diminutif de copain, partager un quignon de pain ou le territoire planétaire, ce n'est finalement pas forcément très différent. Bon, pour les anglophones, vous me direz, COP, ça fait tout de suite brandisseur de matraque et utilisateur de flashball. Ça, c'est encore autre chose. Alors les enfants, vous sortez votre calculette domino-mino-domino-minette. Les USA plus la Chine, vous arrivez à combien? Eh ben ouais, on fait péter pratiquement les 42% d'émissions de gaz à effet de serre mondial. Alors ces pays, Mathieu Orphelin, n'ont jamais signé un accord contraignant de leur vie. Souveraineté d'abord, sans compter qu'une partie du Congrès à majorité républicaine aux États-Unis considère que le réchauffement climatique d'origine humaine, mais c'est une fable pour les enfants, c'est formidable. Et il pourrait d'ailleurs fonder une amicale avec une partie de notre belle Académie des sciences en France. Oui. Alors contrainte ou pas contrainte?
Il y a des parties de l'accord de Paris qui seront juridiquement contraignantes, même si le pourcentage de réduction d'émissions sur lequel s'engage chaque pays, lui, n'est pas juridiquement contraignant. C'est comme ça qu'a été créé cet accord de Paris. Par contre, tout ce qu'il y a autour, notamment l'obligation de prendre un engagement, la possibilité de que ce soit contrôlé, également la révision à la hausse tous les 5 ans de ses engagements. Tout ça va être juridiquement contraignant.
Alors, sur quoi débouchera cette nouvelle grand-messe du climat, même sans taxe carbone qui permettrait de réorienter les investissements climaticides? Mais ça, vous verrez, donc on y arrivera, on l'a encore entendu ce matin. Nous aurons la réponse fin de semaine prochaine, petits humains que nous sommes, sur notre frêle esquif sans planète de rechange. Et évidemment, puisque Noël approche, citoyens de plus en plus incrédules, on aimerait que cette COP se conclue enfin par un miracle. Et dans quelques instants, Mathieu Ricard, jusqu'à la fin de 7h, France Inter, c'est au de mon amour, bel après-midi.
Oh là là, la vie en rose, le rose qu'on nous propose, d'avoir les quantités de choses qui donnent envie d'autre chose. Allez, on nous fait croire que le bonheur c'est d'avoir, de l'avoir plein nos armoires, dérision de nous dérisoire. Car foule sentimentale, on a soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles. Chose pas commerciale, foule sentimentale. Il faut voir comme on nous parle, comme on nous parle. Il se dégage de ces cartons d'emballage, des gens lavés hors d'usage. Et triste et sans aucun avantage, on nous inflige des désirs qui nous affligent. On nous prend, faut pas déconner, déconner, pour des cons alors qu'on est. Des foules sentimentales, avec soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Foule sentimentale, il faut voir comme on nous parle, comme on nous parle. On nous Claudia Schiffer, on nous qu'on peut nous faire et qui ravage à la moqueur du ciel dévale un désir qui nous emballe pour demain nos enfants pâles, un mieux, un rêve, un cheval. Foule sentimentale,
j'ai eu la chance de rencontrer donc Mathieu Ricard, c'était fin octobre, parce que l'homme voyage beaucoup et puis va aussi bien sûr dans son monastère, on le sait, moine bouddhiste tibétain, docteur en génétique cellulaire et puis aussi photographe avec un bel ouvrage aux éditions de La Martinière, bel ouvrage en noir et blanc, Visage de paix, terre de sérénité, c'est assez superbe. Et puis la question était toute simple, on s'est dit bonjour bien sûr, et puis qu'est-ce qui vous rend heureux aujourd'hui Mathieu Ricard?
Bonjour cher ami.
Qu'est-ce qui vous rend heureux aujourd'hui?
Ah, d'être le matin devant des arbres, des fleurs, la nature à l'orée de l'automne.
Mais alors ça a toujours été quand même une de vos sources de vie, en fait, cette nature, qu'elle soit en Inde, au Népal, en Himalaya, où vous alliez?
J'ai grandi à la campagne, j'ai eu un petit épisode parisien, je suis retourné dans la nature le plus vite possible dès que j'ai eu l'occasion.
Est-ce que c'est une source d'inspiration quand même, la nature, ou bien simplement une source de ressourcement?
C'est tout, parce que d'abord, inspiration, parce qu'on se sent tellement en harmonie, si vous voulez, quand on parle de méditation, dans un endroit comme ça, vraiment naturel, un peu immaculé. La méditation est aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. C'est-à-dire l'embouteillage, un petit peu moins. Et puis, donc, aspiration esthétique, je crois que la biophilie, c'est un concept très fort. C'est une idée qui a été lancée par plusieurs personnes, dont E.O. Wilson. Et c'était amusant d'ailleurs parce qu'il a montré des images de différents paysages à différents peuples du monde, depuis l'Équateur jusqu'aux Esquimaux. Et ce que tout le monde choisissait, les Esquimaux y compris, c'était un paysage où vous voyez une grande étendue verdoyante avec une rivière ou un étendue d'eau, et puis un endroit surélevé, une petite colline boisée. Alors, la verdoyance, c'est la prospérité. L'eau, c'est que, bon, il y a des ressources pour survivre. La petite colline boisée, ça peut être soit pour prendre refuge, c'est des prédateurs qui vous courent après, ou pour observer si vous êtes chasseur. Et donc, même les Esquimaux, je trouve ça... Ah, ça, c'est l'endroit où on voudrait vivre. Il y a beaucoup d'études qui ont montré aussi que dans les villes, c'est un problème, par exemple. Et que, par exemple, dans les hôpitaux, s'il y a une fenêtre qui donne sur un parc avec des arbres, les patients ont besoin d'environ 30% de moins d'analgésiques et la durée de leur convalescence est réduite aussi de 30%. Moi, je me rappelle une fois quelqu'un qui me disait « Je suis très stressé, j'ai dit, ben, assieds-toi, regarde un peu le ciel. »
Alors Mathieu Ricard, il y a un mot sanskrit que vous aimez bien, c'est pratiya samutpada. Ça veut dire être en co-émergence. Alors qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire survenir en dépendance d'autre chose. Eh bien, si vous voulez, vous prenez un arc-en-ciel. On a l'impression qu'on pourrait l'attraper, y accrocher son linge. Mais en fait... On se dit, il a quand même une petite existence en lui-même. Il y a quelque chose quand même qui lui appartient en propre. Vous enlevez soit la pluie, soit le soleil, qui apparemment, a priori, n'a rien à voir avec l'arc-en-ciel. Immédiatement, l'arc-en-ciel s'est existé complètement. Il n'en reste rien. Donc si on enlève un des facteurs qui ont permis ce phénomène de se cristalliser, eh bien, il n'en reste plus rien. Et ça, on peut étendre ça à l'ensemble de la réalité. Tout n'existe qu'en relation. Pourquoi est-ce que beaucoup de nos souffrances viennent d'où? Parce qu'on réifie, on solidifie l'ego, le moi. Je suis une petite entité autonome, séparée, indépendante. Donc si c'est ça, j'ai intérêt à le protéger, cette entité, à la satisfaire. Donc attraction, répulsion, et puis ça se développe en désir, en obsession, en animosité, en haine, en jalousie, en arrogance et en souffrance. Donc tout ça vient... une déformation de la réalité.
Ce que vous nous dites, c'est qu'en fait, vouloir construire son bonheur en ignorant donc les autres, c'est carrément une hérésie, c'est
alors,
impossible.
Quoi. Sur le plan du bonheur et de la souffrance, ça c'est sûr que l'idée d'un bonheur égoïste, c'est voué à l'échec dès le départ. Alors il y a des raisons subjectives, c'est que si vous en faites l'expérience, moi, du matin au soir, généralement, on sait très bien que c'est très inconfortable. Et mon grand ami Alexandre Jolien dit « Dans la bulle de l'ego, ça semble renfermé. »
Ah, c'est joli.
Oui, ça c'est très joli. Nous ne sommes pas des petites entités autonomes qui pourraient chacun construire leur bonheur dans leur coin. Notre bonheur et notre souffrance passent au travers des autres. N'est concevable qu'au travers et avec les autres.
Ah, alors là, nous reposons notre tasse de merveilleuté.
Bon, c'est un été de Darjeeling. Moi, j'ai passé 7 ans à Darjeeling. Je suis un petit gars de Darjeeling.
Oui.
Et je voyais les bandes brunes, parce que Darjeeling, c'est toujours dans les nuages. C'est ce qui caractérise, vous arrivez dans les plaines en bas, vous voyez des nuages, vous savez que Darjeeling est en dessous. C'est à 2000 mètres. Donc, les jardins de thé qui couvrent toutes les collines à perte de vue. Et puis, le Kanchenjunga, 8300 mètres en fond de paysage, c'est quand même assez extraordinaire. Donc, j'ai passé 7 ans quasiment sans bouger là-bas.
Lorsque vous êtes dans votre monastère, qu'est-ce que vous avez sous les yeux?
C'est un monastère qui est près de Katmandou. Donc j'ai sous les yeux le monastère déjà, parce qu'il est très grand. Il y a 600 moines, il y a une grande cour intérieure. Et alors on voit un peu les collines environnantes. Par contre, quand je vais à 2h30 de là, dans mon petit ermitage...
C'est celui qui nous intéresse bien.
Voilà, bon, il vous intéresse bien, mais il n'y a pas beaucoup de la place pour deux pour camper. Mais enfin, on peut vous trouver un hamac quelque part.
Bien sûr.
Donc il fait environ, j'imagine, 2,80 m sur 3 m à l'intérieur. Il y a un petit balcon, j'ai un petit point d'eau et un petit réchaud derrière dans les petits appentis. Et là, j'ai une grande fenêtre qui couvre le mur principal quasiment. Donc je vois, quand je m'assieds le soir sur mon lit, petite couche au sol, je vois les étoiles comme si j'étais dehors. Je vois toutes les constellations comme si j'étais dans une navette spatiale ou quelque chose comme ça. Et je vois environ, je ne sais pas mesurer non plus, mais enfin, je ne sais pas, j'imagine 280 degrés de vue, l'Himalaya, 300 km depuis l'Annapurna jusqu'à l'Everest, en gros. La lune sur les brumes, dans la vallée, le petit matin, les pics, on commence par voir tous les pics qui sont à plus de 7500, 8000 commencent à devenir roses et puis ça descend. Donc on peut mesurer l'altitude des pics en voyant lesquels sont allumés les premiers. Parce que bon, il y en a un, le Shijepangma, qui fait 8004, je crois, qui est au Tibet, donc il est assez loin, mais comme il est très haut. Ah, il s'allume celui-là.
Cet ouvrage aux éditions de La Martinière, donc, qui s'appelle « Visages de paix et terre de sérénité », il y a beaucoup de visages, hein, il n'y a pas que des paysages. Mais là, vous avez eu envie de nous offrir aussi, un moment de bien-être dans ce monde complètement de dingue, où on voit des gens qui peuvent être dans une pauvreté absolument totale, mais qui sont quand même globalement radieux et qui sont en quête de quelque chose.
Moi, ça me frappe toujours dans les populations himalayennes. C'est que, voilà, par exemple, les gens qui cultivent les champs en dessous de mon ermitage, ils chantent tout le temps. C'est pas des galériens qu'on force à chanter, ils font pas la manche dans la rue, ils sont pas timbrés, ils sont pas sur les planches d'un music hall où on les paye, ils chantent. Alors on va dire, oui, mais t'as une vision complètement naïve, bisounounours, oui. Édénique. Mais c'est pas, j'aurais pas demandé de chanter. S'ils chantent toute la journée, il y a bien avoir une raison. Donc, effectivement, il y a une joie de vivre. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aider, comme nous le faisons au travers de notre Karuna Sechen, améliorer leur santé, notamment la santé des femmes. On a un programme au Népal pour des problèmes de santé féminine très graves. Ce que nous avons aidé, c'est 200 000 victimes de tremblements de terre depuis les deux tremblements de terre tragiques du mois d'avril et du mois de mai. Même là, j'ai été récemment dans un de ces villages. Il y avait un petit vieux de 82 ans qui avait été 2 heures sous les décombres et qu'ils avaient sorti vivant. J'ai pris la main comme ça, ils me regardaient en me disant « qu'est-ce qu'il a celui-là ?» Ils me regardaient avec un air larmoyant, à pleurnicher. Ils ont une résilience joyeuse et l'idée de les plaindre, ça leur semble complètement farfelu. Et donc il y a une force d'âme et ça vient de beaucoup de choses. Ça vient d'une certaine vision du monde, de l'interdépendance, de l'impermanence, de la non-violence, de l'amour du prochain. Donc on retrouve dans toutes les grandes traditions spirituelles, bien sûr, et religieuses. Mais là, c'est très vivant. Et puis cette unité avec la nature, tout ça, bon, c'est un fait. Tous ceux qui ont voyagé dans l'Himalaya, au Tibet, au Bhoutan, en Inde, au Népal, l'ont remarqué, donc c'est pas moi qui invente ça.
Lorsque l'on parle d'éducation, ça veut dire que l'on parle d'école. Et là, il y a eu une très belle idée, donc avec la fondation Karuna Sechen. Ça fait à peu près 14 ans, près de 15 ans que cette fondation donc existe. Ça a été quand même de construire ces écoles. Et comme il y a très peu de moyens, eh bien, le bambou peut être la solution.
Oui, parce qu'il y a plusieurs raisons à ça. Tout d'abord, en 2-3 mois, vous pouvez construire une école pour 2000 enfants. Et pour environ 100-150 000 euros. Et donc, il y a un entrepreneur social qui est un type génial, qui est passionné par ça. Il y a 72 districts au Népal, il veut en faire 72. Nous l'avons aidé à en faire 9, ce qui fait environ plus de 18 000 enfants. Et alors, il y a un truc qui serait formidable, je ne sais pas si ça marcherait avec l'éducation nationale en France, c'est que dans une des écoles qu'on a construite à Pokhara, ils ont recruté donc une centaine de professeurs. Donc, ils ont mis une petite annonce dans le journal, ils ont eu pas loin de 1000 candidatures pour 100 professeurs. Donc ils ont fait un tri, ils sont restés avec 300 candidats qui semblaient valables. Et alors comment ils ont fait la sélection finale? Ils ont amené les profs, donc 3 profs par classe, chacun une semaine, et ensuite ils ont demandé aux enfants de choisir le prof qui les inspirait le plus, avec qui ils avaient envie d'étudier.
Ça ne marchera pas chez nous.
Vous croyez que ça ne marcherait pas comme ça, non? Bon, bah écoutez...
En tout cas, bon, le bambou, ça a été la solution.
Alors le bambou, oui, parce qu'il y a du bambou, il y a plusieurs sortes de bambou, mais il y a un type de bambou au Népal qui est extrêmement dur et qui dure au moins 25 ans. Alors, d'abord, c'est écologique. Ensuite, quand il y a le tremblement de terre, vous l'imaginez, ça s'est pas écroulé, ça a bougé un petit peu, c'est tout. Donc c'est très sûr du point de vue du tremblement de terre. On essaie, l'année prochaine, on va construire peut-être une ou deux écoles bambou modèle avec en plus énergie solaire, et collecte d'eau de pluie pour les toilettes, par exemple. Et ces écoles aussi rassemblent environ 60-65% de filles, parce que le coût de la scolarité est quasiment nul, ce qui fait que généralement, quand ils ont un tout petit peu d'argent, les familles pauvres, ils envoient d'abord les garçons à l'école. C'est des machos. Et tandis que maintenant, là, on récupère les filles, ce qui est très bien, parce qu'on sait que même 6 mois d'éducation à une petite fille ou à une jeune fille réduit d'environ un tiers la mortalité infantile de la mère et de l'enfant plus tard. Au Tibet, on a maintenant une 60aine de petites filles qui étaient des nomades, qui n'auraient jamais su ni lire ni écrire, qui maintenant sont à l'université.
Embouteillages et des pots d'échappement, des décisions à court terme. Et si vous vous dites, après moi le déluge et la pollution, surtout n'écoutez pas CO2 mon amour, ne vous faites pas de mal.
CO2 mon amour, Denis Chessou.
J'ai vu, c'était Henri Salvador, alors c'est vrai qu'on voit, nous sommes tous sur cette planète en train de respirer le même air, plus ou moins pollué, et puis on voit des gens qui pensent différemment, des gens qui ont fait un travail absolument incroyable, Mathieu Ricard donc avec nous, et on va partir avec vous Mathieu Ricard donc au Népal, pour que vous nous parliez de ces grands-mères ingénieurs solaires.
Alors ça c'est l'idée d'un grand ami qui s'appelle Bunker Roy, alors c'était une grande famille indienne, et sa mère le destinait à un poste prestigieux à la Banque mondiale, il était dans les plus beaux collèges, et à un moment donné, quand il avait 18 ans, il y avait une grande famine au Bihar. Donc il a été avec un groupe de ses amis du même âge, rejoindre Jai Prakash Narayan, qui était un ami de Gandhi, un personnage d'une autre figure morale en Inde, et pendant un mois, ils ont aidé dans ses campagnes. Il est revenu à Delhi, il a dit à sa mère, je ne vais pas à la Banque mondiale, je vais travailler dans les villages. Et sa mère a dit, quoi, comment, quel titre? Il dit, comme ouvrier non spécialisé, pour creuser des puits. Et donc, il a commencé par creuser de ses mains des puits, 300 puits. Et ensuite, il s'est dit, mais c'est complètement idiot. Il ne faut pas creuser des puits, il faut trouver un autre moyen. Ça assèche la nappe phréatique. Il a vu dans une vallée, un endroit où il y avait un espèce de vieux barrage qui remontait à 200-300 ans, construit par les musulmans au Rajasthan. Et puis il s'est aperçu que tous les puits de la vallée étaient à sec. Il s'est dit, mais qu'est-ce que c'est, pourquoi il y aurait un truc là-haut? Donc il a pensé qu'il y avait peut-être un bénéfice, un bienfait à accumuler l'eau. Donc ils ont refait un barrage comme ça, qui a toute la vallée en montagne, 4 mètres de haut. Et la première mousson, les puits de la mousson, il s'est rempli en une semaine. Et tous les puits de la vallée ont ressurgi parce que ce qui se passait, c'est que l'eau ruisselait, partait dans le désert. Et là, comme il la gardait, elle s'est infiltrée dans le sol. Alors après, il s'est dit, mais en gros, que faire pour les villages et tout ça? Il s'est dit, bon, les hommes, ils sont inéducables. Dès qu'ils ont un diplôme, ils partent à la ville. Les mères de famille sont trop occupées, elles sont surchargées d'enfants. Donc, quelles sont les personnes qui pourraient aider et qu'on est sûr qu'elles vont rester dans le village? Les grands-mères. Et donc, il s'est dit, je vais entraîner des grands-mères illettrées à devenir ingénieurs solaires. Donc, il a fait un programme qui dure 6 mois. Avec tous les, ils fabriquent entièrement les éléments, ils assemblent tous les trucs solaires avec des codes de couleurs. Et bien après, ça a marché formidablement. Maintenant, ils travaillent dans 57 pays. Moi, je fais visiter son collège des Vanupiers, le Barefoot College au Rajasthan, où il y a 300 personnes qui travaillent. Il n'y a que de l'énergie solaire pour faire marcher tout. Et personne n'est autorisé s'ils ont un diplôme. Et ces femmes de solaire, il y en a qui viennent d'Éthiopie, d'Arabie, de Chine, de Thaïlande, et elles sont toutes ensemble et elles, en 6 mois, deviennent ingénieurs solaires. Mmh. Elles repartent dans les villages et elles électrifient les villages. Et celles qui font la maintenance, le village cotise le prix qu'ils auraient payé pour acheter des batteries pour leur lampe électrique. Mais le gros avantage, c'est pas seulement d'avoir électricité solaire, c'est qu'avant, ils avaient des lampes au kérosène qui font des conjonctivites. Tout ça, ça faisait que les enfants ne pouvaient pas étudier parce que ça leur faisait mal aux yeux. Là, maintenant, avec l'énergie solaire, les femmes elles-mêmes s'alphabétisent. Les enfants peuvent faire leurs études. Donc, c'est à la fois pour la santé, l'éducation. Et donc, ça, c'est formidable. On fait aussi la collecte d'eau de pluie. Si les femmes ne doivent pas marcher, comme en Afrique, 2-3 heures pour aller chercher de l'eau, et que... Vous savez, c'est incroyable. Moi, quand je vois la pluie tomber, maintenant, je me dis... Je ne sais pas quel gâchis, parce que ça fait du bien partout où ça tombe. Je me dis, il y a tellement d'eau de pluie qui tombe. Et de fait, on a fait des réservoirs d'eau de pluie dans plusieurs écoles au Népal. Et les paysans, au début, les gens des alentours du village, ils rigolaient. Je voulais ramasser de l'eau de pluie, c'est ridicule. Et bien maintenant, ils ont tous copié le truc, parce que vous remplissez 100 000 litres d'eau en rien de temps, en 15 jours.
Pas très loin, évidemment, du Népal, même juste à côté, vous avez le Bhoutan. Alors, je sais que les relations ne sont pas forcément toujours parfaites entre le Népal et le Bhoutan, loin de là, mais cette notion de bonheur national brut, ça doit vous parler, quand même.
Bah, évidemment, j'ai fait partie du comité, comment on appelle ça, le think tank, je ne sais pas comment dire en français, le comité de réflexion. Ils m'ont emmené aux Nations Unies pour parler des aspects intérieurs du bonheur national brut. Alors, c'est 3 choses. C'est bon, la prospérité matérielle. Il faut que les gens puissent avoir un toit, pouvoir se vêtir le minimum vital, quoi, vivre décemment au-dessus du seuil de la pauvreté. Deuxièmement, c'est la richesse sociale. Par exemple, le volontariat, le bénévolat. Eh ben, le bénévolat, il est inclus dans les comptes de l'État. Et après, il y a la richesse environnementale. Ils ont 65% de couverture naturelle. Et c'est dans la Constitution. Vous imaginez un pays qui a mis dans sa Constitution qu'il ne devait jamais avoir moins de 60% de couverture naturelle dans le pays. Il faut le faire. Alors, ça, c'est aussi, ça fait qu'ils sont, ils captent davantage de CO2 qu'ils en émettent. C'est le seul pays au monde et qui protège leurs forêts. Parce que la chasse et la pêche sont interdites. C'est quand même pas mal. Et ils ont calculé que, finalement, s'ils coupaient leurs forêts, le PIB monterait au plafond pendant quelques années. Ça. Mais après, ils auraient un pays dévasté. Donc, ils ont évalué la richesse des forêts sur pied. C'est 10 fois le PIB. Donc, on se dit, on les garde. C'est tout simple. Il y a un endroit, la vallée de Gangten, où il y a des grues cendrées qui viennent hiberner de la Sibérie. Elles ne sont pas très farouches. Il y en a des centaines dans des marais. C'est une vallée glaciaire à 3800 mètres. Et on s'est dit, les Bhoutanais se sont dit, si on met l'électricité avec des poteaux télégraphiques, ça va déranger les grues. Donc un pays qui décide, on ne va pas déranger les grues, donc on ne fait que de l'énergie solaire dans cette vallée.
Ce qu'on entend, c'est que l'on fait avec la nature, évidemment pas contre.
Mais alors le problème, c'est que les pauvres, ils font tout bien et ils souffrent des bêtises des autres. Puisqu'il y a évidemment les 2000 glaciers du troisième pôle au Tibet, au Bhoutan et ailleurs qui fondent plus vite que l'Arctique et l'Antarctique. Le problème, c'est qu'il y a un très grand nombre de nouveaux lacs qui n'existaient absolument pas il y a 30 ans, quand même pas de nom. à la cause de la fonte des glaciers. Et notamment au Bhoutan, il y a un lac à un endroit particulier où la moraine qui retenait, la moraine naturelle qui retenait les 50 millions de mètres cubes d'eau, faisait 70 mètres d'épaisseur en 2000, et aujourd'hui, il en fait plus de 30. Donc quand ce truc-là va casser, d'abord, ça va être 50 millions de mètres cubes d'eau qui vont dévaler dans la vallée, ça va être très meurtrier. Ensuite, tout le système de réduction des eaux va être bouleversé.
Alors je pourrais vous lancer aussi, Monsieur Ricard, sur Monsanto, parce que Monsanto a reçu en 2013 le prix World Food Prize. On va dire que c'est une espèce de prix Nobel de l'alimentation. Ça vous a fait un tout petit peu bondir quand même avec cette firme qui a été créée en 1901. Bon, on sait que c'est un des grands producteurs de produits toxiques, les PCB, les pyralènes, l'agent orange, etc. Aujourd'hui, 90%, on va dire, du maïs, soja, coton sont cultivés à partir donc d'OGM. Et Monsanto détient quand même la plupart de ces brevets. Alors ce prix, ça vous a quand même un peu choqué?
J'ai un petit sursaut parce qu'on parle maintenant de la FIFA, etc. Monsanto, quelques années avant, a doté ce prix de plusieurs millions de dollars. C'est quand même un peu bizarre qu'on dote un prix et puis qu'on vous le donne deux, trois ans plus tard.
Alors, c'était pas les seuls, hein. Il y avait Syngenta, il y en avait d'autres, etc.
Oui, je sais bien, mais enfin, malgré tout.
Non, bien sûr, oui. C'est pas du conflit d'intérêts, quoi.
Ouais, il me semble, non? Mais c'est assez transparent, en plus, parce que. Alors, j'ai fait un petit article là-dessus. On m'a accusé de pique-pendre. Mais tout était faux. Alors, qu'est-ce qui est faux? Est-ce que c'est la déforestation qui va avec pour faire du soja transgénique? Est-ce que c'est le Roundup qui serait aussi qui serait complètement totale innocuité ou pas? Qu'est-ce qui est faux dans ce que j'ai écrit d'abord dans cet article et en donnant toutes les références scientifiques dans un chapitre qui s'appelle l'égoïste institutionnalisé? Et on m'a dit notamment, rien n'est prouvé, la nocivité des aliments OGM. Moi, si vous lisez le chapitre que j'ai fait, j'ai jamais dit que les... Il n'y a aucune preuve jusqu'à maintenant, parce qu'il n'y a pas suffisamment d'études longitudinales sur 20-30 ans qui montrent que les aliments OGM nuisent à la santé. Les études qui ont été faites ne sont pas très bonnes scientifiquement. Je n'ai jamais dit ça. Ce que j'ai dit par contre, on sait très bien qu'en Afrique, en Amérique du Sud, tous les petits fermiers ont été évincés de leurs petites propriétés pour faire des vastes monocultures contrôlées par les multinationales. Et que ça amène beaucoup de dégâts humains. Que c'est asperger des grandes surfaces avec du Roundup par avion, il y a des recrudescences des cas de cancer, etc., chez les enfants, il y a autre chose. Qu'en Inde, le coton OGM, qui n'est pas seulement celui de Monsanto, mais les autres, on dit pour mes monts et merveilles, mais c'est un coton qui résiste moins à l'humidité, qui pourrit, les paysans sont endettés. Alors on a dit qu'il n'y a pas de relation entre le suicide, 50 000 paysans indiens se suicident chaque année, mais c'est parce qu'ils sont tellement endettés. Les graines
en
normales...
Plus, en avalant très souvent les pesticides.
Ils avalent les pesticides auxquels ils sont endettés. Donc si vous voulez, c'est quand même vrai que les graines traditionnelles, ça leur coûte... de 300 roupies par an, c'est l'équivalent de 30 euros, et qu'ils sont endettés parce qu'on leur fait payer très cher ces graines qui doivent acheter des produits. C'est que socialement et environnementalement, les monocultures d'OGM ont un effet extrêmement nocif pour l'environnement et pour la population.
Mathieu Ricard, en vous entendant, vous êtes un type en fait parfaitement révolutionnaire. Hein. Ah oui,
c'est ça qui est bien. La révolution de l'altruisme.
Et ben voilà, mais c'est ça. Non, mais vous cassez quand même merveilleusement ce système quand même qui rend dingue la plupart des Occidentaux. Qu'est-ce qui vous motive profondément aujourd'hui?
D'abord, sur ma vie de tous les jours, c'est de faire marcher ces projets humanitaires, hein, puisque, encore une fois... On a la possibilité maintenant d'aider beaucoup de monde. Moi, c'est ça qui me fait descendre dans mon ermitage après quelques mois de retraite tranquille. Mais aussi dans le domaine des idées, c'est de voir que finalement, si on voit les défis du monde moderne, hein, réconcilier le court terme de l'économie, c'est quand même ça, ou de la vie de tous les jours, ou des défis de boucler les fins de mois, ou de la précarité au sein de la richesse. Donc les personnes qui font face à des difficultés journalières, aussi leur propre esprit, hein, la dépression dans une dizaine d'années sera la principale cause mondiale qui nous fait qu'on est incapable de fonctionner dans l'existence, c'est-à-dire le nombre d'années, de jours, de mois où les personnes ne peuvent pas travailler, ne peuvent pas fonctionner normalement. Ça c'est l'OMS qui le dit, c'est pas moi. Donc si vous voulez, il y a toutes sortes de défis. Et puis il y a le moyen terme, la qualité de vie sur l'espace d'une génération, d'une vie, c'est le bonheur national brut, comment est-ce qu'on juge, on est satisfait ou non de l'existence qu'on mène, est-ce qu'on a pu actualiser le potentiel que nous avons. Et puis il y a le défi du long terme, qui est le plus grand défi aujourd'hui, c'est à savoir la façon dont nous avons un impact majeur et déterminant sur l'avenir de la planète, et ça veut dire aussi des générations à venir. Donc, réconcilier ces trois échelles de temps, c'est pas facile. Admettons que, donnons a priori le bénéfice du doute que la vaste majorité des êtres humains souhaiteraient un monde meilleur. Bon, je pense que c'est vrai.
Oui.
Donc il faut, pour ça, qu'on ait un concept commun pour travailler vers un monde meilleur. Donc il faut un concept unificateur. Mais je vois pas d'autre concept que d'avoir davantage de considération pour autrui. Si vous avez davantage de considération pour autrui, vous aurez une économie solidaire. Au lieu d'avoir une économie de l'homo economicus qui ne vise qu'à maximiser ses intérêts personnels du moment, et qui, l'homo economicus, ne pourra jamais gérer deux choses, la précarité au sein de la richesse, il n'a pas intérêt à aider les pauvres, et il ne pourra jamais gérer le problème des biens communs, la qualité de l'air, des océans, parce qu'il faut qu'ils sortent de ce cercle vicieux de maximisation des intérêts personnels. Et il pourrait voir l'intérêt à long terme, mais comme ce n'est pas le cas généralement, donc une économie plus solidaire, qui est au service de la société et de l'environnement. Deuxièmement, une justice sociale, c'est-à-dire remédier aux inégalités qui vont croissant depuis 30 ans dans tous les pays de l'OCDE. Donc tout ça, ça demande de la considération d'autrui. Et si vous avez de la considération d'autrui, le long terme, vous ne pouvez pas impunément sacrifier le sort des générations à venir et de toute la biosphère. Un tout petit peu de bon sens devrait nous faire voir que l'altruisme est un concept extrêmement pragmatique et ce n'est pas une noble utopie pour les bisounounours qui ont une vision édénique de la chose. C'est un concept absolument pragmatique.
CO2 Mon Amour sur France Inter.
Puis n'hésitez pas, vous le savez, franceinter.fr, CO2 Mon Amour, vous avez le site à votre disposition pour laisser vos messages, et puis le podcast, vous en avez l'habitude.
Lá nasceu, põe um estrela, que cata brilhando. Lina mar, boi o areia, que canta moia, espalhou desse mundo fora. Sol, rote e mar, terra, povo, cheio de amor. Tem morna, tem coladeira, terra, sal, cheio de amor. Tem batu, tem funaná, espalhou nesse mundo fora. Sol, rote e mar, terra, povo, cheio de amor. Tem morna, tem coladeira, terra, povo, cheio de amor. Tem batuque, tem funaná. Oi, tanto saudade, saudade, saudade. Oi, tanto saudade, saudade sem fim. Oi, tanto saudade. Saudade, saudade. Oi, tanto saudade. Saudade sem fim. Estrela que cata brilhar, lina mar, boi o areia que cata moiar, espalhou desse mundo fora. Sol, rote e mar, terra, povo, cheio de amor. Tem morna, tem coladeira, terra, sal, cheio de amor. Tem batu, tem funaná. Espalhou nesse mundo fora. Sol, rote e mar, terra, povo, cheio de amor. Tem morna, tem coladeira, terra por cheio de amor, tem batuque, tem funaná. Oi, tanto saudade, saudade, saudade. Oi, tanto saudade, saudade sem fim. Oi, tanto saudade, saudade, saudade. Oi, tanto saudade, saudade sem fim. Estrela que canta brilhar, e na mar boia uma areia que canta moiar, espalhando nesse mundo fora. Só rotima teve pouco cheio de amor, tem morna, tem coladeira, terra sal cheio de amor, tem batu, tem funaná. Espaiar nesse mundo fora, só rotimar, terra pouco cheio de amor, tem morna, tem coladeira, terra pouco cheio de amor, tem batu, tem funaná. Petit pays, je t'aime beaucoup, petit, petit.
Petite couleur du Cap-Vert, bien sûr, avec Césaria Évora sur France Inter, CO2 Mon Amour, avec Mathieu Ricard. Donc, cet ouvrage de photos, c'est vrai que c'est très beau, aux éditions de La Martinière, Visage de paix, Terre de sérénité. Et puis, bah, ceux que vous avez connus aussi, à savoir Plaidoyer pour les animaux, maintenant tout ça c'est en poche. Et puis, Mathieu Ricard, donc Plaidoyer pour l'altruisme.
Je voulais pourquoi j'ai écrit un plaidoyer pour l'altruisme. J'ai pas besoin d'écrire un plaidoyer pour l'égoïsme, parce que tout le monde dit, ouais, on sait qu'on est égoïste. Enfin, il fallait montrer aussi qu'on est aussi altruiste. De même, c'est pas la peine de nier la compétition.
Non.
Il y a qu'à voir. Bon, les lions, ils dorment 17 heures sur 24. Ils chassent une fois tous les 4-5 jours. Mais si vous ouvrez Discovery Channel ou National Geographic, qu'est-ce que vous allez voir? Des lions en train de bouffer une gazelle. Parce que c'est les lions qui dorment, c'est pas très terrible pour l'audimat. Non, mais c'est vrai. Donc, en gros.
Le Pierre Rabhi nous rappelle une chose très, très juste. C'est-à-dire que le lion, il va se taper effectivement sa gazelle tranquillement. Oui. Puis après, il va pas bouger.
Il en tue pas 100 000.
Voilà. Et tandis que les humains, eux, ils ont inventé la banque d'antilopes ou de gazelles. Vous voyez, voilà, donc ils en ont déjà et ils en veulent encore.
Ils en tuent pas 50 milliards par an. Donc, ils prennent ce qui est nécessaire pour leur survie. Ce sont des carnivores. Ils sont pas comme nous qui sommes omnivores. Donc, c'est normal. Faut qu'on va pas aller les embêter pour ça. Donc, la compétition, elle existe. Ben Darwin, si on avait lu Darwin correctement, il parlait énormément de la coopération. Et il y a même un passage dans Darwin assez extraordinaire qui complètement va à l'encontre de l'idée du gène égoïste et de la sélection de parentèle. Il dit, cette bienveillance qui est au cœur d'une communauté, on peut l'étendre au-delà de nos proches. Et il disait même à d'autres espèces, par l'éducation. C'est incroyable, c'était visionnaire. Les grands spécialistes de l'évolution, comme Martin Novak et O. Wilson, ils en sont revenus de l'idée du gène égoïste et ils ont montré que la coopération avait été beaucoup plus créative dans l'évolution pour atteindre des degrés de complexité croissants. La compétition ne permet beaucoup moins cela. C'est grâce à la coopération. La coopération est beaucoup plus importante. Et aujourd'hui, nous sommes des super coopérateurs. Une ville, même si on ne se réveille pas le matin en disant « on va travailler tous ensemble aujourd'hui », mais en fait, de facto, une ville ne fonctionnerait pas sans une coopération implicite. Et maintenant, alors que nous sommes tous sur le même bateau et que l'avenir de la planète est entre nos mains, on doit passer à un degré supérieur de coopération de façon urgente. Et je dirais même, j'ai un espoir secret que l'évolution, finalement, elle sélectionne quoi ? Les traits les plus favorables à la survie. Et il me semble que même à notre insu, que c'est les coopérateurs qui devraient être sélectionnés, parce que pour survivre aujourd'hui, avec la population qu'il y a sur Terre, et notre impact sur les autres espèces, la coopération est évidemment beaucoup plus une aide à la survie que la compétition. Ce n'est pas le moment de se tirer dans les pattes du matin au soir.
Mathieu Ricard, on va se quitter avec peut-être une dernière photo. Choisissez-la, un portrait peut-être qui vous plaît.
Il y en a une beaucoup au début, qui est un portrait de mon premier maître spirituel. Et pour moi, c'est symbolise à la fois ma vie spirituelle, mes photos.
Kangyo Rinpoche.
Voilà, donc là, on le voit avec un sourire extraordinaire. Et mon ami Paul Ekman, qui est un spécialiste des sourires et qui distingue 18 types de sourires, m'a dit que c'est un sourire parfait parce que les lèvres ne sourissent pas tellement, mais les yeux sourissent magnifiquement. Et donc, voilà, pour moi, il représente la sagesse, la compassion, la bonté, tout ce qui m'a inspiré dans mon existence.
Cartier-Bresson, qui vous a rendu hommage, il disait que chez vous, la vie spirituelle et l'appareil photo ne font qu'un.
Oui, c'est un peu, bon, je ne suis pas très sûr, ma vie spirituelle, c'est l'appareil de photo, mais il a aussi dit quelque chose de très beau. De là naissent ces images fugitives et éternelles.
Et voilà.
Et ça m'a fait très plaisir, évidemment.
Qu'est-ce qu'on vous souhaite, Mathieu Ricard, vous qui êtes peut-être un peu de paix, hein, un peu de, enfin vous bougez beaucoup là.
Je vais avoir 70 ans en février prochain. Ouais. C'est vrai que je commence un peu fatigué, mais ceci dit, c'est une bonne fatigue pour essayer de se mettre au service des autres. Mais j'aspire un petit peu, passer un peu plus de temps dans mon ermitage. Donc, si je pouvais trouver le moyen que l'organisation que j'ai fondée, Karuna, puisse continuer à aider autant que possible et plus encore, sans que je sois moins peut-être toujours sur la ligne de front. Et me remettre un peu plus à la vie contemplative, ce ne serait pas une mauvaise chose.
Merci beaucoup. À bientôt, Mathieu Ricard.
Merci, Denis. C'était un plaisir de passer ces moments avec vous.
De paix, terre de sérénité, donc c'est cet album photo de Mathieu Ricard. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai eu donc à rencontrer cet homme. Vos réactions, enfin ce que vous souhaitez, vous en avez l'habitude, hein, franceinter.fr, CO2 mon amour. Semaine prochaine, on va revenir un petit peu sur la COP, enfin il y aura des sons, on va construire l'émission, on sait pas encore très bien comment, mais on va y arriver, bien sûr. Grand merci à Alexandre Chenet, Philippe Duclos à la technique aujourd'hui, Claire Destacan, Albert Houk, Xavier Pessugia qui a réalisé, qui a colorié toute cette émission. Et oui, il prend son petit pinceau sonore, vous voyez, il fait des petites choses, de très belles arabesques, des enluminures, c'est formidable. Merci à Thierry Dupin qui a choisi les disques, Anne Gouzon qui nourrit les sites de CO2. Demain, Curieux de Nature à 7h55, Alain Bougrain-Dubourg avec Patricia Martin, Nathalie Fontrel, c'est la semaine à 7h20 pour l'environnement, le podcast vous en avez l'habitude. Alors si, j'ai quand même effectivement un certain nombre de revues pas inintéressantes. Nous avons Le Monde Diplomatique, nous avons Politis, nous avons Le 1 dont on a parlé, ils ont tous fait Le Courrier International, ils ont tous fait des numéros bien sûr hors série on va dire sur le climat, et puis le numéro de Terre Sauvage, ce numéro de décembre, notre partenaire. Mon petit billet d'humeur là comme tous les mois, mais ça peu importe. Le climat, comment la nature fait face, avec l'Arctique vu par Vincent Munier, formidable photographe. Vous avez un reportage au Bangladesh, au cœur de la mangrove. La biodiversité, les espèces en première ligne. Donc vraiment, ce très beau numéro, plein de photos bien sûr. Terre sauvage, climat, comment la nature fait face. Et dans quelques instants, eh bien vous resterez sur France Inter puisque vous aurez le plaisir d'écouter Emmanuel Kérad avec quoi la librairie francophone.